19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous, ravi de vous retrouver. Rendez-vous dans quelques minutes avec Idrissa Sedoudia pour le dialogue des religions. Mais d'abord, un tour d'horizon de l'actualité. Les délégués du Forum de Brazzaville pour la réconciliation en République centrafricaine ont paraphé ce soir un accord de cessation des hostilités devant prendre effet immédiatement sur l'ensemble du territoire de la RCA. Les pourparlers de Brazzaville, entamés en début de semaine, s'achèvent donc sur un accord à minima, les délégués n'étant pas parvenus à fixer le cadre du désarmement et de la démobilisation des combattants des diverses milices dans le pays, ni à tracer une feuille de route pour un nouveau processus de normalisation politique. Nouveau Premier ministre au Rwanda, le président Paul Kagame a chargé Anastase Murekezi, ex-ministre du Travail, de former un gouvernement. Il remplace Pierre Abumuremyi qui occupait le poste depuis 2011. La présidence rwandaise n'a pas précisé les raisons de ce changement. Nouveau attentat dans le nord du Nigeria. La police annonce qu'au moins 25 personnes ont été tuées dans une attaque suicide à Kaduna. Une deuxième explosion près d'un marché de la ville a fait au moins 17 morts. D'après les services de secours, le gouverneur de l'état de Kaduna a imposé mercredi un couvre-feu immédiat de 24 heures. Une députée somalienne et chanteuse célèbre, Sadou Ali Warsam, a été abattue dans la capitale Mogadiscio en même temps que son chauffeur par des insurgés islamistes. Chebab, Michel Joseph.
Des tireurs en voiture ont ouvert le feu sur son véhicule dans un quartier du sud de la capitale. Son chauffeur a aussi été tué. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Les Chebab avaient promis en avril dernier de tuer un à un tous les parlementaires accusés d'être des mécréants au service des intérêts de l'étranger. Chassé de Mogadiscio en août 2011, mais toujours présent dans les zones rurales, les islamistes Chebab ont multiplié récemment les attentats contre les institutions somaliennes. Ils ont aussi revendiqué une série d'attaques meurtrières dans des pays voisins engagés militairement en Somalie, comme le Kenya et l'Ouganda.
Le bureau humanitaire de l'ONU promet 75 millions de dollars d'aide d'urgence à 11 pays d'Afrique, des fonds qui seront destinés à faire face aux crises alimentaires et à la malnutrition. La Somalie, où près de 3 millions de personnes manquent de nourriture, sera le principal bénéficiaire, de même que l'Éthiopie et le Kenya. Le Niger, le Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso et la Mauritanie recevront des fonds plus modestes. Les combats se sont poursuivis aujourd'hui autour de l'aéroport de Tripoli en Libye. Des explosions étaient entendues depuis le centre de la capitale et des colonnes de fumée visibles au-dessus du secteur de l'aéroport. D'après l'AFP, au plan politique, l'entrée en fonction du nouveau Parlement a été fixée au 4 août dans l'espoir de mettre fin au chaos dans lequel s'enfonce le pays. Épidémie d'Ebola en Sierra Leone, un responsable médical du centre de traitement de Kenema a été testé positif au virus. C'est ce qu'annonce le gouvernement, alors que 3 infirmières du même centre sont récemment mortes. 422 cas ont été recensés dans le pays, dont 143 mortels. 108 patients ont survécu. En Afrique du Sud, un braconnier de rhinocéros, Mandla Tchoké, a été condamné à 77 ans de prison. Il s'agit de la peine la plus lourde jamais prononcée en matière de braconnage dans le pays. Pour Reynold Takouli, le porte-parole du parc de Groguer, où Tchoké avait été arrêté en 2011, ce verdict est un fort signal de dissuasion aux braconniers dans un pays dont l'économie dépend énormément de sa faune pour promouvoir le tourisme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'actualité à l'étranger, 2 avions de chasse ukrainiens ont été abattus ce mercredi dans l'est du pays par les séparatistes pro-russes, à seulement 45 km du site du crash de l'avion malaisien touché jeudi dernier par un missile. 9 étudiants nigérians sont pris au piège dans l'est de l'Ukraine. Ils seraient détenus par les séparatistes pro-russes à Luhansk. Un responsable ukrainien a affirmé hier que des négociations sont en cours pour obtenir leur libération. Et puis le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance une commission internationale d'urgence pour enquêter sur toutes les violations qui auraient été commises dans le cadre de l'offensive israélienne à Gaza, où plus de 670 Palestiniens ont été tués. Navi Pillay, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, a également dénoncé les attaques aveugles menées par le Hamas contre des zones civiles. Sur le terrain, les tractations diplomatiques se poursuivaient. On termine avec donc cet avion de la TransAsia Airways qui s'est abîmé sur une île entre Taïwan et la Chine continentale. Bilan, plusieurs dizaines de morts.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous et à toutes au micro Idriss Assedoudia. Dans le dialogue des religions de ce mercredi 23 juillet 2014, poursuite de notre conversation sur la diaspora musulmane africaine et le Ramadan aux États-Unis. Et pour cela, nous avons de nouveau avec nous mes collègues Kadiatou Traoré et Mariam Traoré, deux mères de famille qui vivent dans la région de Washington. Bonsoir Kadiatou.
Bonsoir Idrissa.
Bonsoir Mariam.
Bonsoir Idriss.
A décidé de se joindre à nos deux amis, une autre africaine de la région, Diaby Sara. N'est-ce pas?
Oui.
Alors, elle se dit musulmano-chrétienne. Qu'est-ce à dire?
Non, c'était pour blaguer. Sinon, je suis musulmane. Et je suis ivoirienne. Moi, je vis en France et je suis là pour 3 mois.
Alors, qu'est-ce que vous avez constaté pour ce Ramadan? Comment ça se pratique ici par rapport à la France, à la diaspora en France?
Principalement, je pense que c'est à peu près en fait la même manière de pratiquer, parce que c'est pas en fait comme en Afrique où parfois on entend à la mosquée où on entend le
muezzin.
Ouais, le muezzin a appelé la prière, et ici chacun est terré chez lui. On fait comme un peu pour pouvoir pratiquer la religion. Et il y a un autre point aussi que je voulais soulever, c'est que ici, la journée est plutôt longue et ça demande vraiment beaucoup d'efforts aux musulmans qui vivent dans ces pays-là. Et la journée, elle est très longue. Elle commence à 3h30 ou 4h et elle finit à 20h40, parfois même 21h ou 22h. Et ça, c'est pas du tout facile, mais bon, quand on a décidé d'être musulman, il faut l'assumer.
Alors, est-ce que vous gênez vous-même?
Oui, moi je gêne.
Ah, hein. Vous avez parlé de 3 heures ou de 4 heures, alors je me demandais si...
Oui, moi je gêne, moi. Je pense, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on décide de suivre une religion, je pense qu'il faut l'assumer jusqu'au bout.
Très bien. Mais en plus, il y a la charge familiale, et d'ailleurs c'est pourquoi nous avons avec nous de nouveau Kadiatou Traoré et Mariam Traoré. Vu vos très nombreux commentaires sur Facebook, chers auditeurs, et le manque de temps la dernière fois, nous avons donc choisi de revenir sur ce thème afin de donner la chance à un plus grand nombre d'entre vous de parler directement à nos invités. Alors Kadiatou, nous allons encore commencer avec vous. C'est bientôt terminé, hein, le Ramadan.
Oh oui, c'est bientôt terminé. Nous sommes pratiquement vers la fin et on est en train de partir vers la nuit du destin, qui est particulièrement se passe à la 27e nuit du mois lunaire du Ramadan. Et ça aussi, c'est une autre question dans le Ramadan même. Les 10 derniers jours qui demandent aux musulmans beaucoup plus de prières, beaucoup plus d'abstinence. Et il faut être avec Dieu, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et qui pèse en plus de tout ça, parce qu'il y a des prières surrogatoires à faire, et qui fait en sorte qu'on dort moins pendant cette période, les 10 derniers jours.
Mais vous réussissez quand même à le faire, Mariam?
Bon, moi, je pense qu'on essaye. Ici, en Occident, ce que je peux dire seulement, c'est de dire que ce n'est pas du tout facile. Parce que avec le système, et en tant qu'une mère, on travaille très tôt le matin souvent, de passer toute la nuit sans autant, you know, essayer de fermer les yeux même pour 2 heures ou 1 heure de temps. Et en plus, il faut essayer de te réveiller très tôt le matin, ce n'est pas facile.
Oui, justement, je pensais à cela dans la mesure où, d'ailleurs, Sarah l'a dit tout à l'heure, mm-hmm. il faut se lever vers 3 heures du matin.
Ouais.
Et en général, pour aller au bureau, il faut aussi partir tôt. Ce qui fait que, bon, vous vous couchez tard, vous vous levez très tôt, vous passez toute votre journée au bureau.
Tout à fait. Par exemple, moi, hier, je suis arrivée à la maison à 21h de la nuit. Et j'ai trouvé déjà qu'on avait fait la rupture, le temps de me déshabiller et puis de courir, venir mm-hmm. m'occuper de mon mari et puis de ma famille.
Et surtout de faire la prière de Nafla seule. Et puis, ça va souvent avec la paresse.
Voilà, et bon, c'est pas, ça pèse sur nous, en tout cas, ça me pèse beaucoup. Et j'ai été me coucher à 2h30 du matin.
Et pour vous lever une heure après.
Voilà, pour me réveiller une heure après. Et encore revenir travailler. Et, donc,
et quand vous vous levez à cette heure-là, il faut aussi préparer à manger à tous ceux qui jeûnent dans la maison.
Oui, évidemment, c'est... oui, il faut préparer mm-hmm. la table. Même si on ne fait pas la cuisine là, des fois, nous, on se débrouille à préparer les repas et puis on les garde là-bas, mm-hmm. dans le congélateur. Il faut s'organiser aussi. On fait avec, c'est pas... Tout ce qu'on veut pendant le ramadan en Afrique, on a envie de manger frais. Ouais. On a envie de manger des choses fraîches, bien cuites et chaudes. Nous, on ne peut pas se permettre ici.
Okay. On me signale de l'autre côté de la vitre que nous avons Mario Dibala. Ok. Alors, posez votre question ou faites votre commentaire. Vous êtes en direct de La Voix de l'Amérique sur le dialogue des religions. Allez-y. Allô?
Ok, merci beaucoup. Allô, je vous écoute.
Oui.
Bon, ma question est la suivante. Est-ce que les musulmans, que ce soit leur ramadan qu'ils sont en train de faire chaque année, est-ce qu'ils prient vraiment le vrai Dieu?
Ça veut dire quoi? Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite quand vous dites que les musulmans, malgré le mois de Ramadan, est-ce qu'on prie le vrai Dieu? Pour vous, selon vous, qu'est-ce que le vrai Dieu?
Le vrai Dieu, c'est le Dieu d'amour. Le vrai Dieu, pour moi, mm-hmm. c'est le Dieu d'amour qui unit tout le monde ensemble pour qu'on puisse faire la même quelque chose que de l'avant. Mais l'homme dit, bon, ils sont divisés. Il y a ceux qui tuent les gens, les terroristes, toujours les musulmans. Ils n'aiment pas les chrétiens. Et c'est normal.
Monsieur, ça c'est un débat qu'on ne va pas rentrer dedans parce que nous n'avons pas le temps de discuter tout ça. Mais Dieu est Dieu. Quand vous parlez de Dieu, oui. il est d'amour pour toutes les religions. Mm-hmm. Tous qui reconnaissent oui. Dieu, Dieu est d'amour.
Et puis,
Dieu est omnipotent et
omniprésent.
Voilà. Et ça, c'est pour tous les croyants. Il n'y a pas de différence qu'on soit chrétien ou qu'on soit musulman. C'est comme ça.
Quand vous adorez Dieu,
qu'on soit juif, c'est un seul Dieu qui est là. Et chacun essaie par sa voix, d'atteindre son Dieu.
Alors, il est évident que notre auditeur fait allusion à des groupes comme Boko Haram, comme Al-Shabaab, comme l'État islamique en Irak et au Levant, qui se fait appeler maintenant État islamique, mm-hmm. ou Ben Laden lui-même. Quand on voit de tels cas, on a l'impression, et puis, bon, naturellement, il y en a qui en profitent pour donner une mauvaise image à l'islam, mais ouais. comme on a eu l'occasion de le dire dans cette émission à plusieurs reprises, ce n'est pas ça l'islam.
Ce n'est pas ça l'islam, pas mm-hmm. du tout. Idrissa, je suis d'accord avec vous. Je pense que dans toutes les religions aussi, il y a le radicalisme.
Ouais.
Et c'est vraiment regrettable pour les musulmans aujourd'hui, tout ce qui se passe à travers le monde, par des soi-disant qui se disent qu'ils sont musulmans.
Musulmans, effectivement.
Et la majorité des musulmans même ont reconnu, même l'Arabie Saoudite, qui est le staff même, où nous, musulmans, nous nous reconnaissons, nous partons là-bas pour faire notre pèlerinage et tout, à un moment donné, avaient reconnu que c'était de trop, c'est pas ça l'islam. Ils sont en train de jouer avec le nom de l'islam, c'est des soi-disant musulmans, et c'est pas ça l'islam que nous, moi, Kadiatou, que ma famille m'a donné.
Justement, moi, je voulais intervenir pour dire que, en fait, tous ceux qui se servent du nom de l'islam pour soi-disant attaquer les autres ou faire s'exploser, par exemple, des trucs comme ça. En fait, moi, je pense que c'est des gens qui n'ont rien compris à l'islam, parce que l'islam, c'est une religion de paix. L'islam, de foi, c'est une religion d'amour. Et l'islam, c'est tout ce qui est positif. Et donc, il faut qu'on profite pour dire aux gens que tous ceux qui se servent du nom de notre religion pour faire passer la haine et tout ce qui est négatif, c'est des gens qui n'ont rien compris à la religion.
Alors, justement, bon, moi, en tant que Sénégalais, je peux parler de l'exemple du Sénégal qui a eu pendant plus de 20 ans un président catholique dans un pays qui a plus de 95% musulmans.
Tout à fait.
C'était la tolérance. Et d'ailleurs, ça me fait penser à mon ami Émile James Senghor, qui était le neveu de l'ancien président. C'est un journaliste qui a travaillé pour Jeune Afrique et qui est marié à une Sénégalaise musulmane qui a envoyé sa femme à la Mecque et qui a pu, avec sa femme, élever ses enfants comme ça doit se faire, en leur laissant le choix s'ils veulent être musulmans, s'ils veulent être chrétiens. Ça, c'est leur problème, c'est leur choix à faire. Donc, l'islam est tolérant.
Oui, ce que moi, je voulais ajouter, c'est d'inviter les autres, que ça soit chrétien ou juif ou des gens qui n'ont même pas de religion, je m'excuse de le terme.
Les athées.
Voilà, d'essayer de lire le Coran. On n'a pas besoin d'être musulman de connaître le verset, tous les versets du Coran, mais d'essayer de comprendre quand même le sens même du Coran, ce que Dieu avait mis et qui est en train de, jusqu'à nos jours, continue de nous éduquer. Les autres n'ont qu'à essayer de lire un peu le Coran. Moi, je pense que c'est mieux.
Alors, de Kinshasa, notre ami Alphonse Mwaki. Alphonse, vous avez l'antenne.
Oui, je suis là. J'ai deux questions à vous poser. La première, c'est de savoir, quand vous venez comme ça, quand vous êtes dans les ramadans, que vous invitez aussi des non-musulmans américains à participer à vos pratiques là-bas. Si c'est oui, comment réagit-il? Deuxième question. Si vous avez des enfants, je pense aux mamans, Kadiatou et le Béla. Si vous avez des enfants, et vous initiez vos enfants aussi à l'islam, est-ce que pendant les jeunes, là, les enfants aussi les font comme vous? Est-ce qu'ils arrivent à les faire? Ils sont capables de jeûner comme vous?
Oui.
C'est l'État. Si ils sont,
OK. Pour la deuxième question, je pense que j'ai une réponse pour ça, puisque moi, j'ai deux enfants. J'ai un garçon de 13 à 14 ans et une fille de 10 ans. Pour la fille, souvent, il peut gêner jusqu'à 10-15 jours, mais le garçon a commencé depuis 4 ans. Il gêne les 30 jours du mois de carême. Donc, moi, je pense que je n'ai rien fait, mais je fais un pas quand même.
Mais est-ce que le fait de vivre dans cette société qui est essentiellement chrétienne, hein, la majorité reste chrétienne, est-ce que ça n'a pas une influence sur les enfants?
Bon, au début, ce n'était pas facile pour le garçon. Seulement, souvent, même pour aller s'amuser au parc avec les autres, avec le nom Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, c'est son nom. Donc, il venait souvent en pleurant même de me demander si je pouvais changer le nom parce que les gens le taquinent trop avec ce nom Mohamed. Mais avec les explications dont j'étais toujours à côté, maintenant il s'en fiche. Lui-même, il m'a dit que ça a été une chance pour lui d'être Mohamed et puis d'être musulman,
Et je vous dirais qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec Mohamed, ça n'a pas une connotation religieuse, parce que j'avais une amie, sa fille s'appelait, c'est une Française, sa fille s'appelait Pascal, Et pour les Américains...
Mais Sarah est là, elle s'appelle Sarah.
Voilà.
Elle est musulmane.
Ouais.
Elle est là.
Et même le nom n'a souvent, rien à... Ça n'a pas, voilà, ça n'a... Même mon nom, souvent, Mariam, il y a beaucoup de gens qui me posent la question. Mariam, c'est la maman de Jésus.
Voilà.
Donc, étant musulmane et puis ton nom est Mariam, il y a plein de gens qui me posaient la question.
En fait, moi, je pense qu'il faut comprendre les prénoms. Il y a des prénoms qu'on trouve et dans la Bible et dans le
et
Coran.
Dans le Coran, justement.
Donc, il y a des gens qui pensent, par exemple, que Sarah, c'est un nom chrétien, alors que ça se trouve dans le Coran, c'est le nom de la femme du prophète Mohammed, alayhi salam.
Ben moi, pour répondre à notre ami Alphonse Mbouaki, merci pour vos questions, Alphonse. La première, vous nous demandez si en temps de Ramadan, nous invitons aussi nos frères chrétiens à venir chez nous et puis à venir faire la rupture avec nous. C'est permis, c'est pas fermé. Et si tu as des amis chrétiens, tu peux les inviter à venir manger avec toi. La preuve, ici, même aux États-Unis, c'est un grand pays laïque qui reconnaît ça, dont la Constitution dit que le culte même est libre ici aux États-Unis. Et pendant le mois de Ramadan, le président Obama, à la Maison-Blanche, invite plusieurs fois pendant le mois de Ramadan la communauté musulmane ici, des États-Unis. Il les invite à la rupture pour échanger avec eux et tout ça. Et dans les mosquées aussi, c'est permis. Même si tu n'es pas chrétien, il y a la nourriture. Quand tu viens, tu peux te servir, tu manges. Si tu ne pries pas pendant l'heure de la prière, tu peux sortir de la mosquée. Mais quand même, on n'interdit pas à quelqu'un de ne pas manger avec nous parce que l'islam, comme Sarah vient de le dire,
est
une religion de partage, de paix, d'amour et de tout. Et par rapport à... Est-ce que nous incitons nos enfants à faire le Ramadan. Mais chez nous, la culture religieuse c'est ancré dans les mœurs aussi chez nous. Et c'est toute une éducation. Et depuis le bas âge, moi je viens d'une famille de musulmans modérés, une famille musulmane modérée, et on ne m'a jamais
forcé
à faire quoi que ce soit. Mais quand même, le papa était toujours là, il nous a instruits, et voilà, ça c'est votre religion. Et quand, dans la religion musulmane, il y a les 5 prières à faire, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Et donc, comme nous apprenons, nous prions dans une autre langue qui est différente de notre langue, on est obligé d'aller à l'école coranique pour apprendre les versets du Coran qui puissent nous permettre de faire ça.
Oui.
Et ce que j'ai eu, j'ai reçu comme éducation, c'est ce que j'ai transmis à mes enfants.
Ouais.
Chez moi, je ne force pas les enfants à le faire.
Pour
ils sont libres de le faire. Ma fille est là. J'ai une fille de 18 ans avec moi. Et depuis l'âge de 16 ans, elle est venue me voir. Elle me dit, maman, vous m'avez montré. Elle a pratiquement grandi ici aux États-Unis. Et moi, je vais prier. Je sais que je suis musulmane, mais vous ne m'avez pas montré comment prier. On a commencé à lui apprendre. Et brusquement, elle est venue me dire, elle veut porter le voile. Moi, je n'ai jamais porté le voile.
Non.
Ma maman n'a jamais porté de voile. Mais ma fille se voile et elle pratique la religion. Je ne lui ai jamais rien imposé quelque chose.
Ouais. Très bien. Alors, de l'autre côté de la vitre encore, on me signale qu'on a Dieudonné en ligne. Dieudonné. Allô?
Oui, allô?
Oui, allez-y.
Oui, ma question est celle-ci. Est-ce que la religion musulmane, est-ce que le dialogue entre musulmans et chrétiens, est-ce que ça permet l'épanouissement d'une paix durable en Amérique? Comment est-ce que les religions se voient, comment ils se voient quand ils s'accouillent, ils s'attroupent quelque part, comment ils arrivent quand même à parler.
Et Dieudonné, merci bien. C'est une question très importante à Idrissa. Et je pense que le dialogue interreligieux entre les religions comme les chrétiens, les juifs, puisque ici aux États-Unis, il y a une forte communauté de juifs, il y a une forte communauté de chrétiens, et les musulmans aussi sont assez il y a une grande communauté musulmane. Je pense que c'est dans l'amour de Dieu, quand tu regardes les trois livres sur lesquels les religions sont basées, on va trouver quelque part qu'il y a toujours des liens entre les trois religions.
En fait, c'est clair, parce que, par exemple, tout à l'heure, Sarah parlait de son nom. Quand vous regardez la Bible, vous avez Salomon, c'est notre Suleyman, n'est-ce pas, par
tout
exemple.
À fait.
Et vous retrouvez pratiquement... Bon, la seule différence, et je ne parle pas en expert, mais tout simplement en simple fidèle, je crois qu'on se sépare au niveau de Mohammed, n'est-ce pas?
Oui.
Alors... Mohammed est considéré par les musulmans comme le dernier prophète de Dieu. Jésus-Christ est considéré comme un prophète, mais non pas comme le Fils de Dieu, comme Dieu lui-même. Alors, ça, c'est, comment dirais-je, ce genre de distinguo qu'il y a dans les différentes religions, mais les origines sont les mêmes. Allah, c'est Jéhovah, c'est Dieu. Et voilà, c'est... Et il est dit que ce sont les trois grandes religions révélées et qu'il y a... je vais parler encore d'un autre président du Sénégal qui aimait rappeler, lors de ses visites aux États-Unis, que le prophète demandait aux Juifs de venir prier dans sa propre mosquée. Donc, il n'y a pas de...
Mais il dit ça, quand on part à Jérusalem, il y a le mur de lamentation qui est là jusqu'à la mosquée et puis l'église, la première église, ils sont tous là. Et ils sont séparés que par, je ne sais pas, c'est au même endroit. Tu dépasses les Juifs, ils sont là, sur le mur de lamentation. Tu tournes, tu rentres dans la mosquée, et puis l'église est là, juste à côté.
C'est le symbolisme, justement.
Voilà. Et moi, je pense que, quelque part, c'est les gens qui nous ont transmis cette religion, dans la transmission des choses. Il y a une explication psychologique que je ne vais pas rentrer dans. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les détails.
Malheureusement.
Mais...
Alors, il y a Omar Diallo qui veut intervenir. Omar, vous avez l'antenne.
Ok. Merci, monsieur. J'avais posé une certaine question. Ma première question, c'est de savoir comment les Américains, la diaspora africains vivant aux États-Unis perçoivent le ramadan, le mois saint aux États-Unis. Et la seconde question, c'est de savoir, est-ce que réellement il n'y a pas un peu de dichotomie, un peu de harcèlement entre ici les chrétiens américains et la diaspora musulmane aux États-Unis pendant ce mois saint de ramadan?
Non, pas, je ne dirais pas qu'il y a une... Non, pas du tout. Nous sommes là, nous le faisons très bien parce que nous sommes organisés en communauté. Quand tu regardes un peu la structuration de la vie de sociale de la société américaine, les gens vivent dans les communautés. Tu vas trouver que il y a la communauté haïtienne, je parle sous le contrôle de notre charmante productrice, elle vit dans sa communauté et elles sont organisées autour de leur église. Et chez nous aussi, les musulmans, nous sommes là, on est organisés entre nous autour des mosquées. Il y a des mosquées ici, tu vois, les catholiques aussi sont de part ici. Et donc, il n'y a pas de problème. Mais depuis, il faut reconnaître que la perception même de la religion musulmane, depuis le 11 septembre, les événements du 11 septembre, Ben Laden, 2001, et les gens ont commencé à avoir une autre perception de la religion musulmane.
Ouais.
Et là, déjà, et comme on n'explique pas trop aux gens, et donc, quand musulmans, ça colle à terrorisme.
Mais il faut dire aussi qu'à leur décharge, les autorités ont toujours expliqué que ces gens-là qui se servaient de l'islam, insultaient l'islam et insultaient tous les musulmans et qu'en réalité, ce qu'ils faisaient, c'était du simple terrorisme sous le couvert de la religion.
Tout à fait, exactement. Tout à fait, absolument.
Mais, Sarah?
Oui, il avait posé une première question, comme on n'a pas assez de temps. Et moi, je voulais dire que oui, on essaie, on arrive à pratiquer la religion comme on peut et comme on voudrait bien le faire.
La liberté du culte.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est garanti. Merci beaucoup. Merci à Sarah, merci à Kadiatou et merci à Mariam. Et merci à nos auditeurs qui ont participé à cette édition du Dialogue des religions, Idrissa Seludia, pour la Voix de l'Amérique. Et de l'autre côté de la vitre, faut pas l'oublier, Joselle Morissin. Merci Joselle.